En gagnant mon pain, huitième partie. L'atelier de peinture d'icônes occupait deux pièces dans une grande maison à soubassement de pierre. Une pièce, à trois fenêtres, donnait sur la cour et le jardin. L'autre ouvrait sur le jardin et sur la rue. Les fenêtres étaient petites et carrées. Leurs vitres, ternies par le temps, laissaient à peine passer dans l'atelier la pâle clarté diffuse des jours d'hiver. L'une et l'autre chambre étaient encombrées de tables, et à chaque table travaillait, le dos courbé, un peintre, parfois deux. Au plafond, suspendus par des cordelettes, des globes de verre remplis d'eau concentrent la lumière de la lampe et la renvoient sur la planchette carrée des icônes, en un rayon froid et blanc. Dans l'atelier, il fait chaud. On étouffe. Une vingtaine de barbouilleurs de bon Dieu y travaillent. Originaires de Palec, de Colonie, de Mstéri, ils sont vêtus de blouses de cotonnade, de pantalons de coutil. Ils ont les pieds nus ou bandés de toile. Au-dessus de leur tête s'étend une nappe de fumée bleue, celle du mauvais tabac. On sent une odeur d'huile cuite, de vernis et d'œufs pourris. Lentement, comme du goudron, coule une mélancolique chanson. Ah, que les gens sont devenus mauvais. Devant tout le monde, un gamin séduit une fillette. On chante encore d'autres chansons, également tristes, mais celle-ci revient le plus souvent. La mélopée traînante ne m'empêche pas de penser ni de passer le fin pinceau d'hermine sur le dessin de l'icône, de peindre les plis des vêtements, d'ajouter au visage osseux des seins les fines rides de la souffrance. Sous nos fenêtres, le marteau du fondeur Gogolev résonne. C'est un vieil ivrogne au nez rubicon. Le rythme paresseux de la chanson est constamment coupé par le bruit sec du marteau. On dirait un ver qui scie un arbre. La peinture d'icônes ne passionne personne. On ne sait quel personnage malfaisant s'est évertué à fragmenter le travail en une longue série d'opérations dépourvues de beauté, incapables d'inspirer de l'amour ou de l'intérêt pour la besogne. Pamphile, le menuisier, individu méchant, cynique et qui louche, nous apporte les planches de cyprès et de tilleul qu'il a rabotées et collées. Planches de toutes dimensions. Davidoff, un tuberculeux, prépare les fonds. Son camarade, Sorokin, y ajoute de la couleur. Miliachin trace au crayon le dessin qu'il copie d'après son modèle. Le vieux Kogolev fait les dorures et les bosselures. L'exécute les paysages et les vêtements. Enfin, l'icône, sans visage et sans main, est dressée contre le mur en attendant les figuriers. Ces grandes icônes, destinées aux portes d'autels et aux iconostases, produisent une impression mortuaire. Elles sont inachevées, mais l'on croirait que les parties restées blanches sont le fait de quelques miracles qui auraient effacé les têtes, les mains et les pieds. Quand le corps a été peint par le figurier, on remet l'icône à un ouvrier qui donne au dessin la brunissure. Un autre spécialiste écrit les légendes et Larionitch, le chef de l'atelier, applique lui-même la laque. C'est un homme paisible, au visage terne, à la barbiche soyeuse et grisâtre. Ses yeux ont une profondeur et une mélancolie particulières. Son sourire est bon, mais on ne lui sourit pas. On en serait comme gêné. Il ressemble à l'image de Siméon le stylite, par la maigreur et la sécheresse de son corps, par l'expression de son regard. Quelques jours après mon entrée à l'atelier, le peintre des Gonfalons, Kapendioukine, un splendide cosaque du Don, fort comme un ours, arriva en état complet d'ivresse. Les dents serrées, ses yeux doux et féminins à demi fermés, il se mit, sans mot dire, à frapper du poing tous les ouvriers. De taille moyenne, bien proportionnée, il se démenait dans la pièce comme un chat dans une cave pleine de souris. Éperdus, les ouvriers se réfugiaient dans les coins, et de là, ils criaient les uns aux autres « Tombe-lui dessus !» Le figurier Sitanov réussit à calmer l'énergumène furieux en lui assénant sur la tête un coup violent avec un tabouret. Le cosaque tomba. Aussitôt, on l'étendit sur le dos et on le lia avec des essuie-mains. Il se mit à les ronger et à les déchirer avec ses dents. Alors, la colère s'empara de Sitanov. Il sauta sur la table et, les coudes serrés au corps, il s'apprêta à foncer sur le cosaque. Musculeux et grand, il l'aurait infailliblement assommé. Mais, au même moment, survint Larionitch, en pardessus et en casquette. Il menaça du doigt Sitanov et dit aux ouvriers, d'un ton calme et net, « Emportez-le dans le corridor, qu'il y cuve son vin !» Les peintres traînèrent l'ivrogne hors de la pièce, remirent chaises et tables en place et reprirent leur besogne, en échangeant de brèves remarques sur la force de leurs camarades, prédisant qu'un jour ou l'autre, ils seraient tués dans une rixe. « Ce sera difficile de le tuer, » dit Sitanov d'une voix très paisible, comme on parle d'une chose que l'on connaît bien. Je regardai Larionitch avec perplexité, en me demandant pourquoi ces gens violents et robustes lui obéissaient si facilement. Il montrait à tous comment il fallait travailler. Les meilleurs ouvriers eux-mêmes écoutaient volontiers ses conseils. Il s'intéressait à Kapendioukine plus qu'aux autres. « Tu te dis artiste, Kapendioukine. Tu dois donc travailler avec art, à l'italienne. La peinture à l'huile exige l'harmonie des couleurs vives. Et toi, tu as employé ici trop de blanc. Et les yeux de la Madone sont froids, sans expression. » Ils sont mal placés. L'un se dirige vers le haut du nez, l'autre remonte vers la tempe. Le visage manque d'ensemble et n'a plus rien de religieux. Tu ne penses pas assez à ton travail, Kapendioukine. Le cosaque écoute, fait une légère grimace, puis, souriant sans vergogne de ses yeux de femme, il dit d'une voix agréable, un peu enrouée par l'alcool, « Eh, Larionitch, mon père, ce métier n'est guère dans mes goûts. Je suis né musicien, et on veut faire de moi un moine. »
Avec du zèle, on arrive à tout.
Non, 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 pas moi. Ah, si j'étais cocher, si l'on me donnait une troïka. Hey, aïe, aïe, j'attelle à ma troïka. Mes trois chevaux de couleur brun foncé, et nous galopons par la nuit glaciale, tout droit chez ma bien-aimée. Avec un sourire résigné, Larionitch ajuste ses lunettes sur son nez long et triste et s'en va, tandis que 10 voix reprennent à l'unisson la chanson, se fondent en une vague harmonieuse, et, comme si elle soulevait tout l'atelier, elle le balance en un rythme régulier. Par habitude, les chevaux savent où demeure la dame. Pavel Odantsov, l'apprenti qui est en train de séparer les jaunes et les blancs d'œufs, s'arrête, une coquille dans chaque main, et donne la basse d'une voix merveilleuse. Enivrés par les sons, les ouvriers semblent n'être qu'une seule personne, n'avoir qu'une âme, n'éprouver qu'un même sentiment. Et de coin, ils regardent le cosaque. Quand il chantait, l'atelier le considérait comme un souverain. Tous se penchaient vers lui, suivant ses amples gestes. Il agitait les bras comme s'il se préparait à prendre son vol. Je suis persuadé que s'il avait soudain cessé de chanter et crier « Brisons tout !», les ouvriers, même les plus sérieux, auraient saccagé l'atelier. Il chantait rarement, mais la plupart de ses chants dominaient tout. Si accablés que fussent les gens, ses mélodies les transportaient et les enflammaient. Il se redressait et devenait comme une force tumultueuse dans l'ardente fusion des sentiments. Ses chants faisaient naître en moi une brûlante admiration, mêlée d'envie pour le chanteur, pour sa haute autorité sur les autres. Quelque chose d'émouvant et d'angoissant pénétrait dans mon cœur, l'élargissait jusqu'à la souffrance.
J'avais envie de pleurer et de crier à ceux qui chantaient « Je vous aime !» Tuberculeux, jaune et bouriffé, Davidoff ouvrait aussi la bouche, et il ressemblait étrangement à un petit chouka au sortir de l'œuf. Les chansons joyeuses et entraînantes ne se chantaient que lorsque le cosaque les entonnait. Autrement, on chantonnait des mélopées traînantes et lugubres sur le peuple éhonté, dans le bois ou sur la mort d'Alexandre Ier, quand notre Alexandre a été voir son armée. Parfois, sur la proposition de Gicareff, le meilleur figurier de notre atelier, on essayait de chanter de la musique d'église, mais on y parvenait rarement. Âgé d'environ 45 ans, maigre, chauve, la tête à demi couverte d'une couronne de cheveux noirs et bouclés comme ceux des tziganes, Gicareff avait de longs cils noirs. Une épaisse barbe taillée en pointe embellissait son visage fin et bistré, qui n'avait rien de russe. Mais des moustaches aux poils rudes nuisaient un peu à l'ensemble. Ses yeux bleus étaient inégaux, le gauche sensiblement plus grand que l'autre. « Pavel ! » criait-il d'une voix de ténor à mon camarade. « Commence donc, gloire à Dieu ! Écoutez, les autres !» Gicareff était le meilleur ouvrier. Il savait peindre en style byzantin, en style à la mode, et à la manière artistique néo-italienne. Quand Larionitch prenait des commandes pour des iconostases, il le consultait, car Gicareff était excellent connaisseur en originaux. Toutes les coûteuses copies des icônes miraculeuses, celles de Théodorov, de Kazan, de Smolensk et les autres, lui étaient confiées. Mais tout en fouillant parmi les modèles, il grommelait à haute voix « Il nous lie les mains, ces modèles! Il tue l'originalité !» Malgré sa situation importante dans l'atelier, il était moins emporté que les autres. Il traitait amicalement les apprentis, Pavel et moi. Il voulait nous enseigner le métier, ce dont personne ne se préoccupait. Un jour, je me le rappelle, il acheva une copie de la Vierge de Théodorov. Il posa l'image sur la table et dit d'une voix émue « Madone, te voici achevée. Tu es comme une coupe sans fond où vont couler maintenant les larmes amères du genre humain. » Et jetant sur ses épaules le premier par-dessus venu, il s'en alla au cabaret. Chapitre 17. Mes devoirs à l'atelier n'étaient pas compliqués. Le matin, alors que tous dormaient encore, je devais préparer le samovar des ouvriers. Pendant qu'ils prenaient le thé à la cuisine, je balayais l'atelier avec mon camarade Pavel. Je séparais les blancs d'œufs des jaunes, puis j'allais au magasin. Le soir, on me faisait broyer les couleurs et regarder comment on travaillait. Au début, je fus intéressé, mais je compris bien vite que les artisans occupés à cette besogne fragmentée ne l'aimaient pas et souffraient d'un douloureux ennui. Mes soirées étaient libres, et je racontais à mes collègues ma vie sur le bateau. Je leur racontais aussi les histoires lues, et sans m'en apercevoir, je pris dans l'atelier une sorte de place spéciale, celle de conteur et de lecteur. En peu de temps, je me convainquis que ces gens en savaient tous moins que moi. Ils n'avaient pas vu autant de choses. Presque tous avaient été placés dès leur enfance dans l'étroite cage du métier, et ils y étaient restés enfermés depuis lors. De tout l'atelier, Gicareff seul avait été à Moscou. Il en parlait d'un ton docte et sévère. « Moscou ne croit pas aux larmes. Il faut y faire bien attention. » Parfois, il me semblait que mes camarades voulaient se moquer de moi. Ils affirmaient que l'Angleterre se trouvait au-delà de l'océan et que Bonaparte appartenait à une famille noble de Kalouga. Quand je leur racontais ce que j'avais vu de mes yeux, ils n'avaient pas entièrement foi en moi, mais ils aimaient tous les légendes terrifiantes, les histoires embrouillées. Les plus âgés des ouvriers, même, préféraient l'invention à la vérité. Je voyais fort bien que plus les événements étaient incroyables, plus il y avait de fantaisie dans le récit, plus on écoutait avec attention. En général, la réalité ne les touchait pas. Ils contemplaient l'avenir en rêvant, pour ne pas voir la laideur et la pauvreté du présent. Dans la malle de Davidoff, nous découvrîmes les nouvelles de Golidzinski, Ivan Vigiguine de Bulgarine, un tome du baron Brambeux. Je lus à haute voix ces volumes fripés, ce qui plut à tout le monde. Larionitch déclara « La lecture empêche les querelles et le bruit, c'est une bonne chose. » Je me mis à la recherche de livres. J'en trouvais, et presque tous les soirs je lisais. Ce furent de belles soirées dans l'atelier. Le silence régnait comme pendant la nuit. Au-dessus des tables rayonnaient les globes de lampes, étoiles blanches et glaciales. Leurs rayons éclairaient les têtes chauves ou chevelues penchées sur les tables. Je voyais des visages paisibles et pensifs. Parfois s'élevait une exclamation d'approbation pour l'auteur ou pour le héros. Attentifs et doux, les ouvriers ne ressemblaient plus à eux-mêmes. Je les aimais beaucoup en ces heures-là, et eux aussi me traitaient bien. Je me sentais à ma place.
Ici, depuis que tu lis, c'est comme au printemps quand on enlève les doubles fenêtres et qu'on laisse pour la première fois pénétrer l'air pur,
dit une fois Sitanov. Il nous était difficile de nous procurer des livres. Nous n'eûmes pas l'idée de nous inscrire à une bibliothèque. Néanmoins, à force de ruses, j'en obtenais. J'en mendiais partout comme des aumônes. Une fois, un capitaine de pompiers me donna le premier tome de Lermontov. Je sentis alors la force de la poésie, sa puissante influence sur les gens. Dès les premières lignes du « Démon », je me le rappelle, Sitanov jeta un coup d'œil sur le volume, puis sur moi. Il posa son pinceau sur la table, mit ses longues mains sur ses genoux et se mit à se balancer en souriant. Sa chaise grinça sous lui. « Doucement, les copains !» dit Larionitch. Il abandonna aussi sa besogne et s'approcha de la table de Sitanov, près de laquelle je lisais. Transporté par le poème, j'étais à la fois ravi et oppressé. Ma voix se brisait, je voyais mal les lignes, des larmes s'amassaient dans mes yeux. Ce qui m'émouvait encore plus, c'était un mouvement sourd et précautionneux dans l'atelier. Les gens se tournaient lentement vers moi. On eût dit qu'un aimant les attirait. Quand j'eus achevé la première partie, les ouvriers étaient presque tous groupés autour de la table, les uns appuyés sur les autres, s'étreignant, souriant ou graves. « Continue, continue !» dit Jikareff en baissant ma tête sur le livre. La lecture terminée, il s'empara du livre, en examina le titre, le prit sous son bras et déclara « Ça, il faut le lire encore une fois, demain. Je vais le cacher. » Après avoir enfermé Lermontov dans le tiroir de sa table, il se remit au travail. L'atelier était silencieux, chacun reprit sans bruit sa place. Après le repas, lorsque les ouvriers furent couchés, Jikareff reprit le livre et me demanda « Eh bien, relis-moi encore cela, lentement, sans te presser. » Quelques-uns se levèrent, doucement, s'approchèrent de la table et s'y assirent, à demi nus, les jambes croisées sous eux. Et de nouveau, quand j'eus fini de lire, Jikareff déclara, en tambourinant sur la table, « Ça, c'est une existence. Ah, le démon, le démon. Hein, mon ami, n'est-ce pas ?» Sitanov se pencha par-dessus mon épaule. Il lut quelques vers et se mit à rire en disant « Je vais les copier dans mon cahier. » Jikareff se leva
et porta le livre vers sa table. Mais soudain, il s'arrêta et se mit à parler d'un ton frémissant et révolté. « Nous vivons comme de petits chiens aveugles. Nous ne savons rien de rien. Nous ne sommes bons ni pour Dieu ni pour le diable. Sommes-nous des serviteurs de Dieu ?» Job l'était, et le Seigneur a parlé avec lui, et avec Moïse aussi. Il lui a même donné son nom. Eux, c'étaient des hommes de Dieu. Mais nous, à qui sommes-nous ? Il enferma le livre et se mit à s'habiller en demandant à Sitanoff « Viens-tu au cabaret ?»«
Je vais chez mon ami, » répondit l'autre à mi-voix.
Lorsqu'ils furent sortis, je me couchai près de la porte, sur le plancher, à côté de Pavel Odanzov. Longtemps il remua et renifla, et soudain il se mit à sangloter tout bas.
« Qu'as-tu ?»«
Je plains tous ces gens à en mourir, » me répondit-il. « Voilà 3 ans passés que je vis avec eux. Je les connais tous. » Moi aussi je les plaignais. Nous restâmes ainsi la moitié de la nuit à causer de ces artisans, trouvant en chacun des qualités, des traits de bonté, et en tous quelque chose qui attendrissait encore notre compassion juvénile. Je vivais en fort bon terme avec Pavel Odanzov. Il devint un excellent artisan. Mais il ne fit pas long feu. Vers la trentaine, il se mit à boire avec excès. Je le rencontrai à Moscou, au marché Kitrov, parmi d'autres vagabonds, et j'ai entendu dire récemment qu'il était mort du typhus. Je frissonne en pensant au nombre de braves gens qui ont péri inutilement sous mes yeux. Les gens s'usent et meurent, c'est naturel, mais nulle part ils ne s'épuisent avec la même rapidité terrifiante ni aussi stupidement que chez nous, en Russie. À cette époque, c'était un gamin à la tête ronde, mon aîné de 2 ans. Alerte, intelligent et honnête. Il était bien doué. Il dessinait très artistement les oiseaux, les chats et les chiens, et il avait une étonnante facilité pour faire la caricature des ouvriers, qu'il représentait toujours avec des ailes. Ceux-ci ne se fâchaient pas, lorsque Pavel exhibait ses œuvres. Cependant, la caricature de Gogolev produisit mauvaise impression, et on conseilla sévèrement à l'artiste « Tu ferais mieux de la déchirer. Si le vieux la voit, il te démolira. » Malpropre et d'une chair malsaine, le vieillard perpétuellement ivre était d'une bigoterie obsédante et d'une méchanceté inlassable. Il rapportait toutes les histoires de l'atelier au commis, que la patronne allait marier à sa propre nièce. Aussi celui-ci se sentait déjà maître de la maison et des ouvriers. L'atelier le haïssait, mais le craignait, et en conséquence, craignait Gogolev. Pavel harcelait de toute manière et sans cesse le fondeur, comme s'il se fût assigné la tâche de ne pas le laisser une minute en repos. Je lui prêtai naturellement mon concours. L'atelier se divertissait de nos exploits, presque toujours brutaux et impitoyables. Mais on nous prévenait. « Vous le paierez, les gosses. Le cafard vous attrapera. » Le cafard était le surnom très approprié que l'atelier avait donné aux commis. Ces avertissements ne nous effrayaient pas. Nous barbouillions de couleurs le visage du fondeur endormi. Un jour qu'il ronflait, complètement ivre, nous lui dorâmes le nez, et pendant 3 jours il ne put enlever la dorure des rigoles de son nez spongieux. Mais chaque fois que nous avions réussi à mettre le vieillard en colère, je ne me sentais pas rassuré. En dépit de son âge, Gogolev était assez fort pour nous rouer de coups assez souvent, en nous prenant à l'improviste. Après chaque exploit, il allait se plaindre à la patronne. Invariablement bonne et gaie, car elle était toujours un peu grise, la patronne s'efforçait de nous faire peur. De ses mains bouffies, elle frappait sur la table et criait « Vous faites de nouveau des sottises, vauriens ! Il est vieux, il faut le respecter ! Qui lui a versé du photogène dans son verre en place du vin ?»«
C'est nous !»
La patronne était suffoquée de surprise. « Ah, Seigneur, et il l'avoue encore. Ah, les maudits. Il faut respecter les vieillards. » Elle nous mettait à la porte, et le soir, elle se plaignait au commis. Celui-ci me réprimandait avec sévérité. « Comment cela se fait-il? Tu lis des livres, et même les saintes écritures, et tu te conduis aussi mal? Attention, mon garçon !» La patronne vivait solitaire. Elle était touchante et lamentable. Parfois, après avoir bu des liqueurs sucrées, elle s'asseyait à la fenêtre et chantait. « Personne ne me plaint, et je ne plains personne. Personne ne connaît mon chagrin. À qui dirai-je ma douleur ?» Et, éclatant en sanglots, elle geignait d'une voix tremblante et caduque. Les ouvriers ronflent, mugissent dans leur sommeil. Quelqu'un délire, profère des paroles entrecoupées. Dans la soupente, Davidov tousse son restant de vie. Ça et là, côte à côte, reposaient, enchaînés par le sommeil et l'ivresse, les serviteurs de Dieu, Kapenyukin, Sorokine, Perchine. Dressés au mur, des icônes sans visage, sans mains ni pieds, nous regardent. On respire une étouffante odeur de pourri, d'huile cuite, de boue aigrie dans les fentes du plancher. « Ah, mon Dieu, comme j'ai pitié d'eux !» chuchote Pavel. Cette compassion envers les gens me tourmente, moi aussi, de plus en plus. Comme je l'ai déjà dit, les ouvriers nous semblaient tous de braves gens, et la vie cependant leur était dure. Au jour de tempête, en hiver, alors que tout sur la terre, maisons et arbres, tremblaient, hurlaient et pleuraient, que les cloches lugubres annonçaient le grand carême, l'ennui faisait irruption dans l'atelier. Pour lui échapper, pour s'étourdir, ces pauvres gens allaient au cabaret, ou chez les femmes. En ces soirées malheureuses, les livres demeuraient sans action. Alors, Pavel et moi, nous essayons de distraire les ouvriers par nos propres moyens. Maquillés avec de la suie et des couleurs, coiffés d'étoupes, nous jouions des comédies de notre composition. Nous luttions avec héroïsme contre l'ennui, en forçant les autres à rire. Je me rappelais la légende du soldat qui a sauvé la vie de Pierre le Grand, et je la transformais en récit dialogué. Nous grimpions sur la soupente de Davidov, et là nous nous démenions en coupant gaiement la tête à des Suédois imaginaires. Notre public riait. La légende du démon chinois, Gengis ou Tong, plaisait tout particulièrement. Pavel représentait le malheureux diable qui veut faire le bien. Moi, je représentais tout le reste. Les personnages des deux sexes, des objets, l'esprit du bien, et même la pierre sur laquelle se reposait le dieu chinois, plongé dans le désespoir, après chacun de ses essais infructueux de tenter une bonne action. Les assistants riaient, et j'étais étonné de la facilité avec laquelle on pouvait provoquer leur hilarité. Cette facilité me choquait désagréablement. « Ah, les pantins !» nous criait-on. « Ah, les guignols !» Mais de plus en plus, j'étais obsédé par la pensée que la tristesse était plus proche que la joie dans l'âme de ces gens. La gaieté, chez nous, n'est ni spontanée ni naturelle. Il faut la faire naître, l'entretenir, l'exciter. C'est une pauvre flamme toujours prête à s'éteindre. Et trop souvent, la gaieté russe se transforme d'une manière inattendue et insaisissable en un drame féroce. L'homme danse comme un captif briserait ses liens. Et soudain, libérant en lui le fauve le plus cruel, il se précipite en brute sur les autres et il mord, déchire et anéantit. Cette gaieté factice, provoquée par des choses extérieures, m'irritait. Excité jusqu'à m'oublier moi-même, je commençais à réciter et à jouer des fantaisies imaginées, séance tenante, tant j'aurais voulu faire naître en mes auditeurs une joie durable et de bon aloi. J'arrivais à un certain résultat, dont me faisait des éloges. On était surpris de mes exploits, mais l'ennui que je croyais avoir vaincu s'épaississait de nouveau, lentement, s'affermissait et accablait l'auditoire. Larionitch me disait affectueusement « Ah, que tu es amusant! Que le Seigneur te protège !»«
Il sait divertir le monde !» expliquait Jikarev.
« Tu devrais te tourner vers le cirque ou le théâtre, Alexis. Tu ferais un excellent paillasse !»
On discutait beaucoup et volontiers à l'atelier. On condamnait, on blâmait, on se repentait, on se livrait à des querelles acharnées à propos de bagatelles, et on s'infligeait les uns aux autres les pires mortifications. Quand on revenait de bain, on se couchait dans les lits poussiéreux et malpropres. D'ailleurs, la saleté, les mauvaises odeurs ne révoltaient personne. Il y avait une quantité de vils détails qui compliquaient la vie. Les modifier eût été facile, mais nul n'y songeait. Souvent on disait « Personne n'a pitié des hommes, ni Dieu, ni les gens eux-mêmes. » Quand Pavel et moi nous lavâmes Davidov, moribond, rongé par la crasse et les insectes, on se moqua de nous. Les ouvriers, par dérision, enlevèrent leurs chemises en nous proposant d'y faire la chasse. On nous qualifia de garçons baigneurs. On nous traita comme si nous avions fait quelque chose de honteux et de très ridicule. Depuis Noël jusqu'au grand carême, Davidov resta couché. Il avait des quintes de toux et lançait du haut de sa soupente, sur le sol, des crachats de sang qui tombaient à côté du cuveau aux eaux sales. La nuit, délirant, il réveillait ses camarades. Presque tous les jours, on disait « Il faudra l'emmener à l'hôpital ». Mais il se trouva d'abord que Davidov avait un passeport périmé. Ensuite, il se sentit mieux, et finalement on décida « Ça n'a pas d'importance, il mourra bientôt ». C'était un pince sans rire, et il essayait lui aussi de dissiper par de petites plaisanteries l'ennui accablant et irrité de l'atelier. Il penchait vers nous sa tête décharnée et terreuse, et d'une voix sifflante, il clamait « Peuple, écoute la voix de celui qui est élevé sur la soupente !» Et il récitait des futilités mélancoliques. « Je vis sur la soupente, je me réveille de bonne heure, et dans le rêve, comme dans la veille, les blattes me dévorent. »
« Il ne broie pas de noir !» remarquait l'auditoire. Parfois, Pavel et moi, nous nous hissions auprès de lui. Il plaisantait avec effort. « Que vous offrir, mes chers hôtes? Une petite araignée bien fraîche ?» Il s'éteignait lentement, ce qui l'horripilait. Il murmurait avec un dépit sincère « Je n'arrive pas à mourir, c'est un malheur !» Son indifférence devant la mort effrayait Pavel. La nuit, il me réveillait et chuchotait «
« Alexis, je crois qu'il est mort. Ne bougeons pas. Ah, que j'ai peur des morts !»
Il ajoutait. « Ainsi il a vécu. Pourquoi? Il n'a pas même 20 ans et il meurt déjà. » Par une nuit de lune, il me réveilla et me dit, les yeux écarquillés par l'épouvante.
« Écoute !»
Sur la soupente, Davidov râlait. Il disait très vite et très nettement « Donne-moi ça ici. Donne-moi ça ici. » Puis il se mit à hoqueter.
« Il meurt, je te le jure !» disait Pavel bouleversé.
Pendant toute la journée, j'avais charrié sur mon dos la neige de la cour qu'il fallait porter au dehors. J'avais sommeil, j'étais fatigué, mais Pavel me supplia.
« Ne dors pas, je t'en prie, au nom du Christ, ne dors pas !»
Et soudain, se dressant sur ses genoux, il se mit à hurler.
« Levez-vous ! Davidov est mort !»
Quelques-uns se réveillèrent, quelques silhouettes abandonnèrent leur couche, des questions anxieuses s'entrecroisèrent. Kapenyukin grimpa sur la soupente et dit avec étonnement « En effet, il semble bien mort. Pourtant, il est tiède. »
Le silence se fit. Jakarev se signa et dit en se roulant dans sa couverture « Eh bien, que la terre lui soit légère et les cieux accueillants. » Quelqu'un proposa « Il faudrait le placer dans une autre pièce. » Kapenyukin descendit de la soupente et regarda par la fenêtre. « Laissons-le là jusqu'au matin, il ne gênait personne, même de son vivant. » Pavel, cachant sa tête sous l'oreiller, se mit à sangloter. Chapitre 18. Dans les champs, la neige fondait, comme fondaient au ciel les nuages d'hiver, qui s'épanchaient sur la terre en pluie et en neige. Le soleil accomplissait sa course journalière, l'air devenait tiède. Il semblait que la gaieté printanière était déjà revenue, qu'elle se cachait pour plaisanter dans les campagnes et qu'elle allait bientôt déborder sur la ville. Dans les rues, s'étalait la boue rousse. Au bord des trottoirs couraient des ruisseaux et les moineaux sautillaient gaiement entre les flaques d'eau de la place de la prison. Et chez les gens, on remarque aussi un air affairé. Du matin au soir, presque sans arrêt, bourdonnent, au-dessus du tintamarre printanier, les cloches du grand carême. Elles donnent au cœur de petits chocs. Il y a dans cette sonnerie, comme dans les propos des vieillards, quelque chose de douloureux. Il semble que les cloches parlent de tout avec un désespoir déchirant. C'est fini, fini, fini. Au jour de ma fête, l'atelier me fit cadeau d'une petite icône artistement peinte, représentant Alexis, le serviteur de Dieu. Et Jigarev prononça d'un ton solennel un long discours qui est resté gravé dans ma mémoire. « Qu'es-tu ? » dit-il en jouant avec les doigts et en haussant les sourcils. « Rien de plus qu'un gamin, un orphelin. Tu as 13 ans, et moi qui ai presque 4 fois ton âge, je t'approuve et je te complimente parce que tu regardes les choses en face et non pas de côté. Cela est bien. Continue toujours comme tu as commencé. » Il parla des serviteurs et des hommes de Dieu, mais la différence entre les uns et les autres resta obscure pour moi. Sans doute, elle n'était pas nette pour lui non plus. Il discourait d'une manière monotone. L'atelier le persiflait. J'étais debout, l'icône entre les mains, très touché et très embarrassé. Je ne savais ce que je devais faire. Enfin, Kapenyukin s'écria avec impatience. « Mais finis donc cette oraison funèbre, il en a déjà les oreilles toutes bleues. » Puis, me frappant sur l'épaule, il m'adressa aussi quelques éloges. « Ce qu'il y a de bien en toi, c'est que tu sais t'arranger avec tout le monde. Même quand tu le mérites, on a de la peine à te gronder, et encore plus à te battre. » Tous me regardaient avec des yeux bienveillants. On raillait gentiment ma confusion. Encore un peu, et j'aurais sans doute éclaté en sanglots, bouleversé par la joie inattendue de me sentir un être utile pour tous ces gens. Ce même matin, à la boutique, le commis avait dit à Piotr Vassilitch, en me désignant d'un hochement de tête, « Un gamin désagréable et qui n'est bon à rien. » Comme d'habitude, j'étais allé au magasin dès le matin, mais l'après-midi, le commis me dit « Rentre à la maison, enlève la neige qui est sur le toit du hangar et remplis-en la cave glaciaire. » Il ignorait que c'était le jour de ma fête, j'en étais sûr. Je croyais que personne ne s'en doutait. Lorsque la cérémonie des félicitations eut pris fin, je changeai de vêtements et je grimpai sur le toit. Je jetai dans la cour la neige compacte et lourde, très abondante cet hiver-là. Mais dans mon émotion, j'oubliai d'ouvrir la trappe de la cave, et je la couvris de neige. Quand je sautai sur le sol et que je m'aperçus de mon étourderie, je me mis aussitôt au devoir de dégager la trappe. Mais la neige était durcie. La pelle de bois n'en prenait que de petites quantités. Je n'avais pas de pelle en fer, et je cassais mon outil au moment précis où le commis apparaissait au portail. Le proverbe russe se vérifiait.
Le malheur marche sur les traces du bonheur.
Ah, c'est comme ça, dit le commis avec ironie en s'approchant de moi. Le bel ouvrier que tu fais, que le diable t'emporte, si je te prends par ta tête, insensé.
Il me menaça du manche de la pelle. Je reculai et lui dis avec colère,
je ne suis pas engagé chez vous comme portier.
Il me lança le bâton dans les jambes. Je pris une poignée de neige et la lui jetai en plein visage. Il s'enfuit en crachant. J'abandonnai ma besogne et rentrai à l'atelier. Au bout de quelques minutes, la fiancée du commis descendit en courant. C'était une jeune fille pétulante, au visage couvert de boutons.
« Alexis, monte !»«
Non, je ne veux pas, » répondis-je. Étonné, Larionitch me demanda à mi-voix.
« Pourquoi ne veux-tu pas ?»
Je lui racontai l'affaire. Il fronça le sourcil d'un air pensif, monta chez les patrons après avoir chuchoté
« Ah, que tu es insolent, mon petit !»
L'atelier se mit à murmurer en accablant d'injures le commis. Kapen Yukin déclara « On va te faire filer !» Je n'en avais pas peur. Depuis longtemps, mes relations avec le commis étaient devenues insupportables. Il me haïssait et me le témoignait avec obstination et une méchanceté croissante. Je ne pouvais le souffrir. Mais j'aurais voulu savoir pourquoi il me traitait d'une façon aussi stupide. Il semait sur le plancher du magasin des pièces de monnaie. Quand je balayais, je les trouvais et je les mettais sur le comptoir, dans une sébile où il y avait des copecs destinés aux mendiants. Quand je devinais ce que signifiaient ces trouvailles, je dis au commis « Vous perdez votre temps en jetant de l'argent par terre pour que je le prenne. » Il s'emporta et s'écria avec impudence « Je te défends de me donner des leçons, je sais ce que je fais. » Mais aussitôt il se reprit.
« Que veux-tu dire par là ?
Moi, jeter de l'argent pour te tenter ? Les pièces tombent d'elles-mêmes. » Il m'interdit de lire.
« Ce n'est pas ton rôle. Ou bien voudrais-tu devenir un savant, petit fainéant, parasite ?»
À la maison, j'avais aussi un adversaire, la fiancée du commis, qui aimait les jeux et la plaisanterie à l'excès. Tous les jeunes ouvriers de l'atelier folâtraient avec elle. On l'attendait dans le corridor, on l'étreignait. Elle ne s'en fâchait pas. Elle se contentait de piailler comme un petit chien. Du matin au soir, elle mâchait quelque chose. Ses poches étaient toujours pleines de pastilles, de bonbons. Ses mâchoires remuaient sans cesse. Son visage inexpressif, aux petits yeux gris et inquiets, était déplaisant à voir. Elle nous proposait, à Pavel et à moi, des devinettes qui cachaient toujours une obscénité grossière. Elle nous enseignait des phrases qui, prononcées très vite, prenaient un sens ordurier. Une fois, un des plus vieux artisans lui dit « Tout de même, tu es une dévergondée !» Elle répondit gaillardement par des paroles d'une chanson grivoise. « Quand une jeune fille a de la pudeur, elle ne sert à rien comme femme. » C'était la première fois que je voyais une jeune fille de ce genre. Elle me répugnait et me terrifiait par ses avances brutales. Quand elle vit que ses procédés ne me plaisaient pas, elle n'en devint que plus importune. Nous l'aidions un jour à la cave, Pavel et moi, à ébouillanter les tonneaux destinés aux quasses et aux concombres salés. Elle nous proposa « Voulez-vous que je vous apprenne comment on s'embrasse ?»«
Je le sais mieux que toi, » répondit Pavel en riant,
tandis que je lui conseillais sans douceur d'aller embrasser son fiancé. Elle se mit en colère.
« Ah, quel rustre ! Une demoiselle est gracieuse avec lui et monsieur tourne le nez. Voyez-vous ce faiseur d'embarras ?»
Et elle ajouta en me menaçant du doigt « Attends, tu me le paieras !» Pavel lui dit aussi pour me soutenir «
Il te secourait, ton fiancé, s'il savait comme tu te conduis. »
Son visage couvert de boutons prit une expression méprisante.
« Je ne le crains pas. Avec ma dot, je peux trouver mieux que lui. Les filles ne peuvent s'amuser que jusqu'au mariage. » et elle se mit à s'amuser avec Pavel. Dès lors, j'eus en elle une dénonciatrice infatigable. La vie me devenait de plus en plus difficile au magasin. J'avais lu tous les livres religieux. Les discussions et les conversations des experts ne m'intéressaient plus. Ils parlaient invariablement sur les mêmes sujets. Seul Piotr Vassilitch continuait à m'attirer par sa connaissance des côtés obscurs de la vie humaine, par son art de discourir d'une manière captivante et ardente. Parfois, je me disais qu'ainsi avait dû cheminer sur la terre, solitaire et vindicatif, le prophète Élisée. J'étais sûre qu'on allait me renvoyer, et je résolus de partir aussitôt que grand-mère serait revenue en ville. Elle avait passé tout l'hiver à Bacano, où quelqu'un l'avait invitée pour enseigner l'art de la dentelle à des jeunes filles. Grand-père vivait de nouveau à Kounavine. Je n'allais pas le voir, pas plus qu'il ne venait me faire visite quand il était en ville. Un jour, nous nous heurtâmes dans la rue. Il était vêtu d'une lourde pelisse et marchait avec gravité et lenteur, comme un prêtre. Je lui dis bonjour. Il me regarda en se protégeant les yeux avec la main et murmura d'une voix pensive « Ah, c'est toi! Tu barbouilles des bons dieux maintenant? Oui, oui. Eh bien, adieu, adieu. » Il m'écarta du chemin et continua sa promenade du même pas solennel. Je voyais rarement grand-mère. Elle travaillait sans répit pour nourrir grand-père dont l'esprit s'affaiblissait. Elle s'occupait des enfants de mes oncles. Le fils de Michael, Sacha, lui donnait beaucoup de soucis. C'était un beau jeune homme rêveur et épris des livres. Il travaillait dans les teintureries et changeait fréquemment de patron. Dans les intervalles, il vivait au crochet de grand-mère et attendait paisiblement qu'elle lui trouvât une nouvelle place. Grand-mère devait également pourvoir aux besoins de la sœur de Sacha, qui avait fait un mariage malheureux. Son mari, un ivrogne, la battait et la chassait de chez lui. Quand je revoyais grand-mère, je jouissais d'une façon toujours plus consciente de son âme. Mais je sentais déjà que cette âme merveilleuse était aveuglée par les contes, qu'elle n'était capable ni de voir ni de comprendre les cruelles réalités. Mes inquiétudes, mes émois, lui restaient étrangers. « Il faut supporter les choses, Alexis. Soyons patients. » C'était tout ce qu'elle pouvait me dire en réponse à mes propos sur les horreurs de la vie, sur les souffrances des gens, sur mes désespérances, sur tout ce qui me révoltait, sur tout ce qui m'accablait. J'étais peu enclin à la patience, et si je manifestais parfois cette vertu propre à l'animal, à l'arbre, à la pierre, c'était pour m'éprouver moi-même, pour connaître la limite de mes forces, le degré de ma résistance à demeurer sur la terre. Parfois, les adolescents, par un stupide enfantillage, jaloux de la force des adultes, soulèvent des poids trop lourds pour leurs muscles et leurs os. Ils fanfaronnent comme des Hercules qui se signent avec des haltères de 30 kilos. C'est ce que je fis aussi, au sens propre et au sens figuré, au moral et au physique. Et si je ne suis pas mort sous l'effort, si je ne me suis pas mutilé pour la vie, je le dois à je ne sais quel hasard. Car rien n'abat un être humain autant que la soumission à des forces supérieures. Et pourtant, si je m'effondre brisé, je dirai à ma dernière heure, et non sans fierté, que pendant 40 ans, de braves gens ont tout fait pour défigurer mon âme, mais que leur travail opiniâtre n'a pas eu grand succès. De plus en plus souvent, j'étais envahi par un impétueux désir de faire des gamineries, d'amuser les gens, de les exciter à rire. J'y réussissais fort bien. Je savais le parler des marchands de la foire de Nijni, je les imitais. Je savais imiter aussi les paysans et les paysannes, vendeurs ou acquéreurs d'icônes, et le commis qui les trompait, et les experts discutaillant. L'atelier riait aux éclats. Souvent, les artistes abandonnaient la besogne pour mieux voir mes représentations. Mais chaque fois, Larionitch me faisait remarquer qu'il vaudrait mieux jouer la comédie après le souper, pour ne pas troubler le travail. La représentation terminée, j'éprouvais un véritable soulagement. Je m'étais débarrassé d'un fardeau qui m'accablait. Pendant une demi-heure, une heure, ma tête était agréablement vide. Mais progressivement, je sentais comme des petits clous qui me martyrisaient le cerveau, et je me disais « Est-ce possible que la vie soit ainsi ? Suis-je destiné à passer mes jours comme ces pauvres gens, satisfaits de l'existence, n'imaginant rien de mieux ?»« Tu deviens coléreux, Alexis, » me dit un jour J. Karef en me considérant avec attention. Sitanov me demandait souvent « Qu'as-tu ?» Je ne savais que répondre. La vie effaçait brutalement de mon âme les bons et naturels instincts. Elle les remplaçait avec cynisme par de vagues inepties. Obstiné et furieux, je m'opposais à ses efforts. Je voguais sur le même fleuve que les autres. Mais pour moi, l'eau était plus froide et elle ne me supportait pas aussi facilement. Parfois, il me semblait que je m'enfonçais lentement dans un remous. On me traitait de mieux en mieux. On ne me grondait pas comme Pavel, on ne me tournait pas en dérision, on me témoignait plutôt des attentions. J'en étais satisfait, mais je souffrais de voir tant de gens s'enivrer, de voir combien ils étaient répugnants dans leur ivresse, de voir enfin leur attitude envers les femmes. Et pourtant, je comprenais que l'alcool et la femme étaient les seules distractions à leur portée. Mais alors, et grand-mère, et la reine Margot ? Je me rappelais la reine avec un sentiment proche de la terreur. Dans mon souvenir, elle passait, irréelle et lointaine, comme une figure de rêve. Je me mis à penser beaucoup trop aux femmes, et déjà je m'étais posé cette question. Pourquoi ne pas aller le dimanche là où tous allaient ? Ce n'était pas un désir physique. J'étais sain et difficile, mais parfois j'éprouvais une envie furieuse d'étreindre un être affectueux et compréhensif, de lui raconter longuement, sans rien dissimuler, comme à une mère, tous les tourments de mon âme. J'enviais Pavel, quand, la nuit, il me parlait de son roman avec une femme de chambre de la maison d'en face. Quelle drôle d'affaire, mon vieux! Il y a un mois, je lui lançais des boules de neige. Elle ne me plaisait pas. Et maintenant, quand je suis assis sur le banc à côté d'elle, lorsque je me serre contre elle, personne au monde ne m'est plus cher.
De quoi parlez-vous?
De tout, évidemment. Elle me parle d'elle, et moi je lui parle de moi. Et puis, on s'embrasse. Seulement, elle est honnête. Si tu savais combien elle est charmante. Vrai. Tu fumes comme un vieux soldat. Je fumais beaucoup. En m'enivrant, le tabac émoussait mes pensées inquiètes. Par bonheur, l'alcool ne me causait que de la répulsion par son odeur et sa saveur. Pavel buvait volontiers, et quand il était ivre, il geignait. « Je veux aller à la maison. À la maison. Laissez-moi aller à la maison. » Il était orphelin. Son père et sa mère étaient morts depuis longtemps. Il n'avait ni frère ni sœur. Dès l'âge de 8 ans, il vivait chez des étrangers. Dans cet état de malaise, aggravé par les appels de printemps, je résolus de m'engager de nouveau sur un bateau, de descendre jusqu'à Astrakhan et de là, de m'enfuir en Perse. Je ne me souviens pas pourquoi j'avais spécialement choisi la Perse. Peut-être parce que les marchands persans de la foire à Nijni me plaisaient. Ils étaient assis, immobiles comme des idoles de pierre, exposant au soleil leur barbe teinte, fumant en paix leur narguilé. Ils avaient de grands yeux noirs qui savaient tout. Très probablement, je me serais enfui n'importe où. Mais la semaine de Pâques, Alors qu'une partie des ouvriers était partie chez eux à la campagne et que les autres rôdaient dans les cabarets, je rencontrais, en me promenant par une journée ensoleillée, au-delà de Loka, mon ancien patron, le neveu de grand-mère. Vêtu d'un léger pardessus gris, les mains dans les poches de son pantalon, une cigarette aux lèvres, le chapeau sur la nuque, il me sourit d'un air amical. Il avait l'aspect engageant d'un homme libre et joyeux. Nous étions tout seuls sur la grande route champêtre. « Ah, Alexis, le Christ est ressuscité! Joyeuse Pâques !» Les félicitations échangées, il me demanda comment j'allais. Je lui avouai en toute franchise que l'atelier, la ville et tout en général m'ennuyaient et que j'avais résolu de partir pour la presse. « Laisse ça, » dit-il très sérieusement. « La Perse, allons donc, je sais ce que c'est, mon ami. À ton âge, moi aussi j'avais envie d'aller à tous les diables. » Cette manière désinvolte de jongler avec les diables me plut. Il y avait en lui quelque chose de printanier, de séduisant. Des pieds à la tête, il avait un air faro. « Tu fumes ?» me demanda-t-il en me tendant un étui d'argent garni de grosses cigarettes. Cette offre acheva de me vaincre. « Écoute, Alexis, reviens chez moi, » proposa-t-il. « Cette année-ci, j'ai pour 40 000 roubles de travaux à la foire, comprends-tu? Je t'installerai à la foire. Tu me serviras de surveillant. Tu recevras les matériaux, tu veilleras à ce que tout soit sur place en temps voulu, tu auras l'œil sur les tâcherons pour qu'ils ne me volent pas. Sommes-nous d'accord? Tu auras 5 roubles par mois et 5 copecks pour ton dîner. Ma mère et ma femme n'ont rien à te dire. Tu t'en vas le matin, tu rentres le soir. Ne leur raconte pas que nous nous sommes vus. Viens tout bonnement dimanche et ça s'arrangera. » Nous nous quittâmes bons amis. Il me serra la main et même il me fit encore signe de loin en agitant amicalement son chapeau. Quand j'annonçai à l'atelier que je m'en allais, il y eut tout d'abord une explosion de regrets très flatteurs pour moi. Pavel surtout était touché. « Voyons, réfléchis, » me dit-il d'un ton de blâme. « Comment pourras-tu vivre avec toutes sortes de rustres après avoir vécu avec nous? Des charpentiers, des peintres. Oublies-tu le proverbe? Un curé ne se fait pas bedeau. » Jikarev grommela. « Le poisson cherche les endroits les plus profonds et les jeunes gens où ça va le plus mal. » Les adieux que me firent les artisans furent tristes. « Bien sûr, il faut essayer ceci et cela, » déclara Jikarev, tout blêmi par les excès de la veille. « Il faut s'accrocher à quelque chose, à n'importe quoi. » « Et pour toute la vie, » ajouta Larionitch à mi-voix. Mais je sentais qu'il parlait avec effort et comme par devoir. Le lien qui m'attachait à eux semblait brusquement rompu. Rien n'était changé. Les icônes inachevées étaient appuyées au mur, et comme on ne travaillait plus à la lumière depuis longtemps, les globes de verre avaient été collés au plafond. Une couche grise de poussière et de suie les recouvrait. Ce tableau est si fortement gravé dans ma mémoire qu'en fermant les yeux, je revois encore aujourd'hui le sous-sol, les tables, les godets à couleurs sur les tablettes des fenêtres, les gerbes de pinceaux avec leurs supports, les icônes, le seau aux lavures dans le coin, sous le lave-main de cuivre qui ressemblait à un casque de pompier, et le pied nu de Gogolev qui pendait de la soupente, bleu comme celui d'un noyer. J'aurais voulu m'en aller bien vite, mais en Russie, on aime à prolonger les instants mélancoliques. Quand ils se quittent, les gens semblent célébrer un service funèbre. Comme je montais pour dire adieu à la patronne, je me heurtai dans le corridor à sa nièce. Elle me demanda « Tu t'en vas, à ce qu'il paraît ?»« Oui. »« Si tu n'étais parti de plein gré, on t'aurait chassé, » m'annonça-t-elle. La patronne, un peu éméchée, me dit « Adieu, que le ciel t'accompagne. Tu es un vilain garçon, un insolent. Pour moi, je ne t'ai rien vu faire de mal, mais ils disent tous que tu es un vilain garçon. » Et soudain, elle se mit à pleurer et déclara entre ses larmes « S'il était vivant, mon défunt, mon cher mari, ma chère âme, il t'aurait savonné les oreilles, il t'aurait allongé une gifle, mais il ne t'aurait pas renvoyé. Aujourd'hui, tout va autrement. Dès que ça cloche un peu, on vous chasse. Où iras-tu, pauvre petit? Où trouveras-tu un asile ?»